cours de métaphysique par le père Marie-Dominique Philippe Arimont le 9 mars 2002. Arimont, sur la personne.
Comme nous.
On fait un cours entre parenthèses. Parce que je ne continue pas le cours de métaphysique directement, mais nous préparons le cours de théologie sur l'essai divin. Je crois que c'est nécessaire.
Alors, comme beaucoup de frères, justement, qui ont travaillé cette question 17 du traité du Verbe incarné, se posent cette question, on est nombreux à se poser cette question. La question du double ou de l'unique essai dans le Christ ne peut se comprendre que dans la lumière de la foi, en coopération avec une métaphysique de l'acte. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'acte d'être, l'essai en métaphysique ?
Comprendre. La première expérience de l'essai en métaphysique, il faut le temps venir à ça, il ne faut pas tout de suite regarder, avons-nous un concept d'être ? Vous posez la question, on y reviendra. Et quel que c'est ce concept d'être ? Je n'ai pas de concept de Dieu. Quand le père Garrigou parle d'un concept de Dieu, il se trompe. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de concept de Dieu. Le concept est cuditas, cudité. Je ne saisis pas la cudité de Dieu. J'affirme l'existence de Dieu. Alors, si... C'est très complexe, hein, c'est pas simple. Alors, prenons le point de départ. Ce qui inquiétait en Sorbonne, je me mens la thèse du père Marie-Dominique Gauthier, j'avais en face de moi l'examinateur, je ne savais pas qui il était. C'était un jésuite transformé en professeur de Sorbonne. C'était un dominicain. Parce que pratiquement, il avait choisi tous des ex dans le jury. Parce que des gens qui connaissaient un peu Saint Thomas. Alors, il me regardait tout le temps. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par ce jugement d'existence ? Qu'est-ce que vous voulez dire par ce jugement d'existence ? Bon, un professeur en Sorbonne se demandant ce que ça veut dire le jugement d'existence. C'est grave, hein ? Parce que je crois que la bonne femme qui va acheter des carottes ou des... au marché, c'est ce que c'est qu'un jugement d'existence. Ça existe, les carottes. Et est-ce que vous devez mettre sans doute ? Ça existe, les carottes. Ah, vous devez mettre en doute comment vous l'atteignez. Et vous dites, donnez-moi ces carottes. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais oui, elles sont là. Jugement d'existence. Ma vie intellectuelle, vous voyez, c'est ça qui est terrible, c'est depuis Descartes. Au fond, il faut mettre le doute en premier lieu. Donc on s'enferme. On s'enferme dans le doute. Est-ce que la vie d'un enfant, la vie que nous avons tous vécue et que nous vivons maintenant, est-ce que c'est premièrement le doute ? Quand vous aimez quelqu'un et que vous dites « je t'aime », est-ce que ce n'est pas premier ? Ah, vous voyez, c'est au fond ça qu'on doit retrouver, ce qui est premier dans notre nature humaine, quand on dit « ceci est ». Mais Sartre revient sur cette question en disant « au café, j'arrive et je me dis, est-ce que Pierre est là ?» Tout le monde regarde, « non, il n'est pas là ». Oui, mais est-ce que l'être est là ? Non, il n'est pas là. Est-ce que vous mettez cette question-là en doute votre jugement d'existence ? Je suis. Au nom de quoi mettez-vous en doute votre jugement d'existence ? Est-ce que ce n'est pas premier ? Alors on arrive à cette question des anciens. Qu'est-ce qui est premier ? La négation ou l'affirmation ? À partir du XIVe siècle, on a mis la négation antérieure à l'affirmation. Et ce sont les théologiens qui l'ont fait. Bon, pour les théologiens, c'est normal, d'une certaine manière. On voit comment saint Thomas dit en théologie par rapport à Dieu, ce qu'il y a de plus certain, c'est la négation. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'a pas de limite. Dieu, non, les négations. La négation a une certitude plus grande que l'affirmation. Alors de là, on arrive à dire, la négation est première. Vous voyez ? Nous sommes les petits-fils de théologiens. L'Europe est petite-fille des théologiens et de la foi. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à accepter. Mais on montre qu'on est petits-fils de théologiens parce qu'on met la négation avant. Ce qui est vrai pour le théologien et ce qui est faux pour le philosophe. Je crois que ça, c'est la première affirmation qui me semble très importante à jamais oublier. La négation est plus certaine à l'égard de l'existence de Dieu que l'affirmation. Vous avez une certitude que Dieu n'a pas de corps. Alors, c'est pas étonnant parce que Dieu, j'en ai pas d'expérience. Puisque je n'ai pas d'expérience de Dieu, mais l'affirmation de Dieu reste toujours analogique, pas directe. Donc, analogique. C'est moins certain que quelque chose de direct qui est la négation. Alors, c'est ça qui a fait le grand tournant. Parce que je crois que c'est très important pour moi, c'est très important quel est ce qui est de premier dans ma vie intellectuelle. Est-ce que c'est la négation ou l'affirmation ? Un Sartre peut affirmer que c'est la négation et tout le monde suit. Et ça, c'est vieux, c'est à partir du XIVe siècle. Et c'est ça le signe de la modernité. Moi, c'était cette recherche. Quel est le signe de la modernité ? D'où vient-elle ? Quel est le premier moment de la modernité ? C'est le primat de la négation. Bon. Alors, quand j'affirme ceci est, je suis en face d'une affirmation tout à fait première, fondamentale, parce que toute ma vie intellectuelle commence par là. Je suis. Ceci est. Alors, Est-ce que nous acceptons, est-ce que nous pensons que nous sommes vraiment en face de ce qui est premier dans notre vie intellectuelle ? Ceci est. Et ça, il faut en avoir une conviction. Si vous ne l'avez pas cherché, il faut avoir une conviction que l'affirmation « ceci est » est tout à fait premier. Votre vie intellectuelle commence par ça. Alors, si vous ne voyez pas que c'est évident, cherchez pourquoi ce n'est pas évident. Et mettez-le par écrit. Vous voyez, on doit soi-même purifier notre intelligence hein, de tout ce qui l'handicape et de tout ce qui l'empêche d'être réellement une vie intellectuelle. Ça, c'est, on peut faire ça et on doit le faire. Donc, ceci est quelque chose de tout à fait premier. Et toute ma vie intellectuelle repose là-dessus. Et ce qu'on a dit, ce brave professeur, toute votre vie intellectuelle repose sur le journalisme. Alors il dit, mais non, pas du tout. La négation est première. Alors, on avait envie de dire, oh, espèce de vieux théologien. Alors ça, c'est la suprême injure. Hein, espèce de vieux théologien. Dieu n'a pas de corps. Dieu n'est pas composé. Oui. Dieu, Thomas commence son traité des Dénos par la simplicité. Aucune composition en Dieu. Donc c'est la négation de toute composition. Or, votre intelligence, elle est compliquée. Le début de votre intelligence, ce n'est pas quelque chose de simple. Quand quelqu'un dit c'est des intuitions, mais non, les intuitions, c'est pas simple du tout. Les intuitions, c'est des évidences, c'est des affirmations sur lesquelles on dit que c'est quelque chose d'absolu. Alors, vous essayez de comprendre. Dans ceci est, vous avez donc un jugement. Votre vie intellectuelle commence par un jugement. Et dans le jugement, ceci est, ceci, c'est le sujet, c'est n'importe quoi, c'est tout ce qui existe. Ceci et affirme son existence. Ah. Donc, dans le jugement premier de ma vie intellectuelle, l'existence est présente. Ceci est. D'où vient ce jugement d'existence ? Comment j'affirme que ceci existe ? J'ai une connaissance très vague, très commune de la réalité qui existe. Une réalité qui existe, elle n'est pas moi. Elle est autre que moi, mais elle est quelque chose sur lequel je peux m'appuyer. Il est. Ce n'est pas un être de raison. Oui, ce n'est pas un être de raison. Ah, ça commence par la négation. Ce n'est pas un être réel. Donc c'est un être raison. C'est très curieux que tout de suite pour l'être, vous avez deux, une possibilité. Un être qui n'est pas, qui n'existe pas, mais qui existe dans ma pensée. Donc, très vite, j'ai l'affirmation de quelque chose qui n'est pas en moi, qui n'est pas ma pensée, qui n'est pas mon amour, qui est une réalité autre. Donc, l'existence m'est donnée à partir de mon expérience sensible. L'existence que je touche, c'est une réalité sensible. Donc, ce n'est pas l'existence. Quand je dis c'est une réalité sensible, vous comprenez bien, elle existe. Mais elle existe d'une façon très imparfaite. Elle existe matériellement. Elle existe donc dans le devenir. Et le devenir est lié à l'être. Je n'ai jamais eu d'expérience de l'être séparé du devenir. Toutes vos expériences sont dans le devenir. Et ça, c'est très important. J'ai connaissance du devenir, de l'être qui devient. Je devrais dire, quand je dis ceci est, je dis ceci devient. Et non, et je dis ceci est. Ah. Alors, l'être est saisi dans le devenir, mais n'est pas le devenir. Je vois que mon expérience immédiate, c'est toujours le devenir. J'ai l'expérience du devenir, de l'être dans le devenir. Mais je n'ai pas l'expérience de l'être en dehors du devenir. Ça, c'est quand même très important. Alors, le devenir, d'où il vient ? Il vient de la nature. Il vient d'un être matériel, de la nature. C'est à cause de ça que je parle du devenir. Le devenir purement spirituel de l'intelligence. Quand je réfléchis, quand je raisonne, j'ai une expérience du devenir intellectuel. Mais ce devenir intellectuel, il dépend du devenir matériel. Il n'est pas premier. Alors, je vois tout de suite le très grand problème qui se pose, les rapports du devenir et de l'être. Comment pouvez-vous arriver à distinguer les deux. Et vous savez qu'en philosophie grecque, c'était le gros problème, le devenir et l'être. Et quand Parménide est arrivé à voir la différence entre le devenir et l'être, il a été comme en extase. Et il a fait l'être séparé du devenir. L'être est nécessaire, séparé du devenir. Or, vous n'avez jamais saisi l'être séparé du devenir. Tout ce que vous touchez, tout ce que vous palpez, c'est le devenir. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que l'être est donc saisi à travers la nature. L'être est saisi à travers la nature. Et la diversité des êtres, c'est la diversité des êtres naturels. Je crois que ça, c'est... on peut facilement comprendre. vous ne saisissez jamais l'être à l'état pur, mais toujours dans la nature. Cette fleur existe, oui, nature. Cet animal existe, oui, nature. L'homme existe, oui, nature. La diversité des êtres, c'est bien des natures différentes. Vous saisissez l'être à travers et par la nature. Je crois que ça, c'est très net. Au point de vue expérience. Votre expérience de l'être est toujours limitée par la nature, déterminée par la nature. Vous n'avez pas une expérience toute pure. Donc, quand vous passez à la connaissance métaphysique, vous acceptez que ce n'est plus l'expérience immédiate qui commande votre métaphysique. C'est l'intelligence qui veut dépasser le devenir et saisir dans le devenir et à travers le devenir l'être. Et vous posez la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? Et vous y revenez tout le temps à cette question-là. Parce que vous n'avez jamais touché l'être. Vous soyez électrocuté. Votre intelligence. Si votre intelligence touchait l'être, vous touchez le devenir. Vous touchez tel être, telle nature. Ça, c'est très important. Vous ne voyez pas l'être. Non, non. Vous voyez des choses en mouvement. Et quand le physicien moderne me dit que tout est en mouvement, mais je dis, mais c'est évident que tout est en mouvement. Tout le monde est en mouvement. Tout le monde physique est en mouvement. C'est la seule chose que je saisis. Directement, immédiatement. Que j'expérimente. Vous ne pouvez pas mesurer l'être. Essayez de mesurer l'être. Et vous mesurez le devenir, la rapidité, la longueur, la profondeur. Toujours. C'est donc une intelligence qui sépare, qui peut parler d'une recherche de ce que c'est que l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Et la première chose que vous dites, l'être n'est pas le devenir, mais le devenir est être. Le devenir existe. Devenir qui n'existerait pas, ce serait un désir chimérique. Le désir existe. Donc l'être m'est donné à travers le devenir. Ça, c'est capital. Et votre métaphysique, elle implique tout le temps de revenir à l'expérience. Sachant que l'expérience de ce qui est se fait tout le temps à travers ce qui devient. Il n'y a qu'un seul être qui n'est pas dans le devenir, c'est l'être premier, Et celui-là, je ne le vois pas. J'ai toute mon expérience et tout le temps dans l'avenir. Mais je peux, par mon intelligence, discerner la différence entre être et devenir. Puisque je vois que l'être, que le devenir n'existe que parce qu'il est, parce qu'il existe. Et ce devenir, l'être dans le devenir, est un être éphémère, un être qui disparaît, puisqu'il devient, il disparaît. Tandis que l'être qui ne devient pas, c'est un être au-delà du devenir. Alors, je peux, au point de vue métaphysique, étudier ce qu'est l'être. Et pour étudier ce qu'est l'être, je saisis dans l'être ce qui est premier. Et donc, ce qui est avant le devenir, ce qui est premier, ce qui fait que le devenir existe, il est dit en tant qu'il est. Et je cherche à connaître l'être, l'au-delà du devenir. Et toute ma métaphysique est orientée à connaître l'être que je ne vois pas. Que je ne sens pas. Seule mon intelligence saisit la distinction entre être et devenir. Et mon intelligence saisit être comme ce par quoi le devenir est. Et je saisis métaphysiquement qu'est-ce que c'est que l'être. Vous voyez combien la métaphysique est séparée. Vous n'avez pas l'expérience. Tandis que vous avez l'expérience du devenir. Vous avez l'expérience de la vie en tant qu'elle devient. Vous n'avez pas l'expérience de ce qui est. Quand vous dites, mais oui, ceci est. Ah oui, attention, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ceci est? Ceci est en mouvement. C'est ce que vous faites. Hein? Quand vous voyez un petit animal qui a la couleur exactement du terrain, vous la touchez pour voir si elle réagit. Et dès qu'elle devient, ah, si elle ne bouge pas, vous ne voyez pas que c'est vivant. Vous arrivez à saisir, il ne bouge pas. Donc c'est matériel. Il n'y a pas la vie. Et quand c'est matériel, je dirais, mais il y a une possibilité pour cette matière de se corrompre. Vous apportez le feu, et votre bout de papier brûle. Ah, qu'est-ce qui brûle ? Son être ou son devenir ? Est-ce que vous brûlez l'être quand vous brûlez une feuille de papier? Le papier est de l'être combustible qui peut disparaître parce qu'il est un être matériel. C'est la matière, la quantité, c'est les accidents, c'est le devenir que je brûle. et comme l'être de ces réalités est lié à sa quantité, ben il disparaît. Mais vous ne brûlez pas l'être. Vous avez déjà brûlé l'être. Non. Vous prenez le devenir. Alors, qu'est-ce que c'est, hein? Vous voyez, comme c'est important de bien distinguer le devenir et l'être, et de comprendre que c'est mon intelligence qui seule saisit l'être. Parce que tout ce qui est palpable, en matière y devenir, elle devient, elle peut devenir. Et la métaphysique, c'est saisir l'être en tant qu'être. Cette affirmation d'Aristote, elle est magnifique. Saisir ce qui est en tant qu'il est être. Pas en tant qu'il est devenir, mais en tant qu'il est être. Et c'est mon intelligence qui peut saisir ce qui est en tant qu'être. Et je peux chercher alors la cause formelle de l'être, la cause finale de l'être, pour saisir ce qu'il est. C'est une analyse que je fais. Bon, une analyse à l'égard d'une réalité que je ne saisis qu'intellectuellement, par mon intelligence. C'est mon intelligence qui peut saisir le dépassement de l'être en devenir, et qui peut, très bien, puisque cet être existe de cette façon. Ça ne sert à rien de vouloir préserver l'être de toute espèce d'analyse. Mon intelligence le saisit. Mais seule mon intelligence saisit ce qui est. Et peut saisir par le fait même en moi un principe qui est au-delà de la matière. Oui. Par où j'ai saisi l'âme. Et ceci va être le grand problème dès demain. La distinction de l'âme et du corps. Les modernes, les petits jeunes qui poussent, vont être à l'école où on ira grand soin de leur montrer qu'il n'y a pas d'âme, qu'il n'y a que le devenir. Et c'est facile, puisque c'est la seule chose que vous pouvez toucher. Or, n'existe que ce que vous pouvez toucher. Ce que vous pouvez analyser. Ce que votre intelligence saisit, ah, c'est votre intelligence, c'est vous. Mais ça n'existe pas. Donc n'existe que le devenir. Et ce que vous pouvez saisir dans l'homme, c'est le devenir. Et vous essayez de faire des hommes nouveaux en calquant leur devenir. C'est imiter le devenir de l'embryon qu'on essaie de faire. Et c'est très curieux. on imite l'embryon et toutes les étapes de l'embryon, on arrive à certains résultats. Paraît-il qu'on arrive à des résultats étonnants. Mais comme c'est caché, qu'on n'a pas le droit de le faire, c'est un Italien qui a déclaré qu'il avait des résultats. On n'était pas encore arrivé. On est dans l'ordre du devenir. L'âme, elle ne peut pas s'expliquer par le devenir. Elle est au-delà. Elle est substance. Vous voyez, ça va devenir pour nous, je suis sûr d'ici, ça y est, déjà dès maintenant, le grand problème philosophique, ce sera vraiment l'existence d'une âme. Est-ce que cette affirmation de l'existence d'une âme est-elle philosophique ou relève-t-elle de la foi? Nous pouvons être sûrs que la foi affirme que l'âme existe. Pouvons-nous l'affirmer au plan philosophique? Or, on est en train de supprimer la métaphysique. En supprimant la recherche de l'être, vous supprimez la possibilité d'affirmer que l'âme existe. Vous ne pouvez pas affirmer que l'âme existe par le pur devenir. Donc, ça, c'est très important. On pourra peut-être physiquement faire des expériences telles qu'on arrive à un devenir calqué sur le devenir de l'embryon. Mais aura-t-il une âme? Alors, pouvons-nous arriver à faire un animal qui, extérieurement, est comme un homme? On va arriver à ces problèmes-là, on y est. Et ce sera quelque chose de particulièrement important. C'est pour ça qu'on supprime l'enseignement philosophique. On y est, on supprime l'enseignement philosophique. Et dès le jour qu'on a supprimé l'enseignement philosophique en France, officiellement, en Sorbonne, on a rétabli un cours de métaphysique. Alors, ce seront quelques personnes qui font de la métaphysique et qui diront que l'âme existe. La plupart des gens diront que l'âme n'existe pas parce que ils ne saisissent que le devenir. Et vous ne saisissez pas l'âme par le devenir. Donc, vous voyez, l'affirmation de l'être en tant qu'être, exige déjà un certain recul par rapport au devenir. C'est le premier recul. Alors, l'être est substance et acte. Substance par la recherche de la détermination. Acte par la recherche de la finalité. Quand vous saisissez l'âme comme principe substantiel du vivant homme, vous la saisissez comme principe substantiel. Donc, comme la détermination de l'être. Vous ne la saisissez pas par mode d'expérience, c'est la découverte au-delà de l'expérience de la métaphysique, la substance. Vous n'avez pas d'expérience immédiate de la substance. Avez-vous une expérience immédiate de votre âme ? C'est très important de se poser la question. Avez-vous une expérience immédiate de votre âme ? Si vous aviez une expérience immédiate de votre âme, pourtant vous dites qu'elle existe. Si vous n'avez pas d'expérience immédiate de votre âme, et n'existe que ce dont j'ai l'expérience immédiate. Rien d'autre n'existe. Donc, je mets entre parenthèses existence et expérience sensible. Alors, je reviens en voyant que le devenir n'est intelligible que parce qu'il est. Et donc, il y a quelque chose que je saisis à travers le devenir, c'est l'être. Et à travers mes expériences humaines, dont j'ai l'expérience que je vous parle. Vous avez l'expérience de m'écouter. Comment ça se fait ? Que je puisse vous parler et que vous puissiez écouter. Parce que l'homme a inventé le langage. Et on essaie de trouver qu'entre les animaux, il y a un langage. Très simple. On garde des singes très, très élevés qui se parlent. On n'arrive pas à comprendre leur langage. Ils se parlent par des signes, par des gestes. On peut parler par des signes, puisque avec des sourds-muets, on parle par des signes. Et ils comprennent. Donc, on saisit autre chose que le devenir. On saisit la signification. Donc, la signification, ça touche l'être. Le devenir tout seul est inintelligible. Alors, vous voyez, on essaie de redécouvrir autre chose que le pur devenir. On va arriver à ça. Et en nous, nous avons un devenir intérieur. Et dans ce devenir intérieur, on pourra découvrir qu'il y a autre chose que le devenir, l'âme. Et l'âme que je n'expérimente donc pas immédiatement comme âme, je l'expérimente à travers certaines opérations qui sont propres au vivant et qui sont propres à l'homme. La parole. Alors on essaie d'imiter la parole, hein, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à voir la signification. On voit qu'il y a des sons. Les animaux peuvent faire des sons. L'oiseau chante. Il parle en chantant. Tiens, j'ai cru que le chant est avant la parole. rossignol chante. Mais la signification, là, vous voyez, au fond, le grand problème devient le problème tout à fait premier, l'être et le devenir. Que vous puissiez affirmer quelque chose que vous n'expérimentez pas directement. Et toujours par l'expérience à. Par l'expérience, vous ne saisissez pas l'être, vous saisissez le devenir. Et ce devenir existe. Alors, pour l'essai divin, pour l'essai, est-ce que vous touchez votre existence? Est-ce que vous pouvez toucher la dualité de l'existence du Christ? Est-ce que vous pouvez expérimenter qu'il y a une nature humaine, oui, mais qu'il y a un essai divin, un essai humain, est-ce que vous pouvez expérimenter? Non. Puisque l'essai divin présent suffit. Donc, c'est uniquement une question de l'intelligence et de la foi. Vous avez bien un certain concept analogique de l'être. Mais analogique, pas direct. Vous avez connaissance de la quiddité de votre chaise, la quiddité de votre meuble. Mais pas plus. Et les déterminations que vous saisissez, elles existent. Vous voyez, déjà au point de vue philosophique, vous voyez que vous n'avez pas d'expérience directe de l'essai. Vous l'affirmez en métaphysique que l'âme est source d'existence. J'ai l'expérience d'un mouvement particulier, d'un mouvement propre au vivant, mais je n'ai pas l'expérience directe de l'exister. Comme exister. C'est pour ça que c'est si difficile quand il s'agit de la théologie par rapport à Jésus. Ce n'est pas l'expérience. Alors, on va dire, ah mais ceux qui ont connu le Christ ont l'expérience du Christ, l'expérience de la nature humaine. De l'existence de sa nature humaine, ça oui, mais d'un essai humain, point d'interrogation.